Radio Barque, donc notre 10e émission de la saison pour cette deuxième partie. Michel, tu prévois de revenir sur une autre des institutions de la ville, le Racing, le oui. RCNM. Oui. Avec, qui a tenu une réunion, qui, bon, comme on le sait, qui essaie de se sortir la tête de l'eau et qui a tenu une réunion récente.
Oui, c'était lundi dernier. Et Jean-Louis Cossinus m'avait demandé, j'ai d'ailleurs été surpris quand il m'a fait cette proposition, parce que c'est pas mon métier.
Le rugby, tu veux dire?
Non, d'animer une table ronde à laquelle participaient Stéphane Jolivet, le patron d'Areva, Louis-Benoît
Madol.
C'était
des dirigeants d'entreprise qui
l'avaient fait. Benoît Madol, c'est ça, et lui-même. Et bon, très honnêtement, très sincèrement, cette soirée s'est très bien passée. Il y avait plus de 200 personnes déjà au Théâtre Scène Nationale. Et je crois que on a réussi à cerner le contexte dans lequel devait aujourd'hui, me semble-t-il, je parle du président actuel, devait réfléchir Jean-Louis Cossinus pour mettre en place un modèle économique, un plan d'investissement pour les 3 ans qui viennent, qui consolide et permette au Racing de se relever peut-être de la situation dans laquelle il est.
Alors en clair, qu'en est-il sorti?
J'ai fait observer deux choses, deux ou trois, on verra comment ça va se dérouler ma chronique là. C'est que fini le temps ce soir-là où le Racing, comme dans les années 70, et alors que la ville était très pauvre, rurale, elle vivait de la rente viticole, de la rente publique à travers ses fonctionnaires, c'est une petite ville moyenne, paradoxalement, à ce moment-là, le Racing brillait, était au fait, effectivement, de ses... Pourquoi ?
Oui, seulement le rugby fonctionnait d'une autre façon.
Pourquoi ? Parce que le rugby, c'est effectivement, à cette époque-là, c'était un sport amateur, il touchait le sud de la France, des villes moyennes, essentiellement rurales, pour aller très très vite, quoi.
Et aujourd'hui, il était très populaire. Il était populaire au bon sens du terme. Et
aujourd'hui, le rugby, il est métropolitain, dans les grandes métropoles, il est capitalistique, il est international à la fois dans son jeu, dans son marché, si je puis dire, y compris dans son mode de recrutement. Premier point.
Donc, faisais-je observer
que donc il fallait que les dirigeants du Racing se sortent de leur bulle culturelle, à savoir j'ai été brillant, premier, je vais le redevenir.
Le passé et le passé.
Pour effectivement revenir sur terre un petit peu et penser le rugby dans le contexte d'aujourd'hui. Deuxième observation, c'est que ils sont dans un territoire le Racing est dans un territoire qui est objectivement pauvre. Alors je vais utiliser le mot un peu fort, mais là aussi je le fais exprès d'une certaine manière pour bien. Pourquoi ? Parce que l'économie de la Narbonnaise est une économie essentiellement résidentielle. Résidentielle pour nos auditeurs, ça veut dire que c'est une économie qui est induite par l'augmentation démographique du territoire, c'est-à-dire bâtiments, commerce, etc.
Mais
etc.
pour faire simple, il n'y a pas de grosses entreprises.
Le tourisme, etc. Et il n'y a pas donc dans cette zone de grosses entreprises à part Areva, capitalistiques, et qui, autonomes, et qui soient capables effectivement d'apporter, parce que c'est le budget, un moyen pour être en pro-2, j'ouvre une parenthèse, dans les 10 premiers, il faut mettre 10 millions d'euros minimum, Ça existe, à Nevers, par exemple.
Nevers a réussi,
Nevers,
curieusement.
30 000 habitants, 60 000 l'agglo. Sauf qu'à Nevers, il y a une boîte qui a 530 salariés, qui est leader sur son créneau du textile, qui a un président, qui est président du club depuis 10 ans, et qui a dit, je vais faire de mon club de rugby la vitrine de mon club d'entreprise. Et il a réussi à recréer aujourd'hui pratiquement 500 chefs d'entreprise.
Mais c'est pas le cas ici.
Et enfin, faut observer, pareil du côté des finances publiques. Les finances publiques de nos collectivités sont à l'image de ce qu'est notre territoire. Donc, le conseil, ce que j'ai fait passer comme message et que je crois a été entendu, c'est que le Racing est tenir compte de cela, établir, vérifier, dans ce contexte, et surtout de là où il était aujourd'hui, en fédéral 1, dans ce contexte, quel type d'objectif devait se fixer. Certainement pas le top 14, certainement pas le haut de la Pro 2, compte tenu des moyens. Et deux,
Est-ce que la Pro D2 est encore raisonnable?
Est-ce que si on doit se fixer un objectif de Pro D2 pour être en bas de tableau, ou est-ce qu'il faut consolider d'abord dans les 3 ans qui viennent de la fédérale pour se reconvenir? Donc je dis, et ce que j'ai fait, remarque, il faut observer que entre 2008 et 2018, le Racing s'était payé le luxe d'avoir 6 présidents successifs. On divisait 6 par 10, vous avez la durée moyenne des présidents.
Un an et demi,
Vous rajoutez à ça, que pendant la même période, 3 maires, 3 présidents d'agglo, le nombre d'entraîneurs, je vous dis pas. Dernière remarque, stabilisation à la fois des, enfin, par rapport à un objectif fixé des finances et surtout en fait, d'un mode de management. Et ça, ça impliquait que nécessairement, hein, sur une période de 3 ans, l'ensemble des acteurs se mettent d'accord à la fois sur l'objectif, sur les ressources et le mode de management.
C'est-à-dire qu'on ne fasse pas le coup du double crématorium.
Exactement. Exactement. Et que ça, ça supposait que toutes les parties prenantes, y compris les collectivités locales, se mettent d'accord sur cet ensemble-là pendant 3 ans. On ne peut pas, en fait, continuer comme aujourd'hui, avec des collectivités, par exemple, qui disent, ben, oh, cette année, je veux peut-être mettre 300, et l'année prochaine, je sais pas, mais peut-être.
Oui, que... on a besoin d'une vraie
Il
politique.
Il faut stabiliser, mais comme dans n'importe quelle entreprise digne de ce
absolument.
Nom.
Oui, puisque.
Voilà le message.
Voilà. Le message étant, comme tu l'as
entendu,
dit,
je
puisqu'on
crois.
Est dans une entreprise aujourd'hui qu'il faut bien le comprendre.
Et il a entendu.
Pour terminer ce sommaire, Michel, des coups de pales. Alors, ce sont des pales d'éoliennes que se livrent apparemment certains élus.
Là aussi, c'est pas que je vais systématiquement m'en prendre aux élus. Moi, j'ai une haute opinion de la fonction politique, au sens noble du terme, et des élus quand ils sont à la hauteur, justement, de cette exigence-là, de la fonction politique, c'est-à-dire gérer l'intérêt général et ne pas, bon, raconter des histoires, en fait, à la fois à leurs électeurs, comme, bon, hein, aux lecteurs des journaux qui rapportent leurs propos.
Oui, seulement, là, on est dans un monde qui n'est pas tout à fait celui que tu décris.
Mais... C'est pour ça que, de temps en temps, bon, petit contre-regard pour, voilà, évacuer un petit peu et faire ressortir l'inanité de certains propos, en fait, ou la démagogie d'autres, me semble utile. C'était l'autre jour, je ne sais plus quel jour précisément, Jean-Claude, tu l'as
enfin,
perdu
peu importe
aussi.
Le jour, parce que la veille ou le lendemain, c'est pareil.
C'est d'abord Codorniou, en fait, hein, le vice-président de la région, qui se fait souffler dans les branches, ça tombe bien, on parle d'éoliennes, par le sénateur Courteau. Pourquoi ? Hein, parce que ce sénateur avait lu dans la presse que le dit Codorniou l'avait mis en cause, les parlementaires en général et lui en particulier, hein, au motif qu'il n'aurait pas signé fait, le pacte de Narbonne, enfin, le pacte de Narbonne signé par Mme Delga, M. Codorniou et d'autres acteurs, hein, pour développer, faire du territoire, comment dirais-je, le hub fait, des éoliennes flottantes
une belle vitrine du
monde entier.
Une belle vitrine.
Ah, il manque Courteau,
il
a envoyé un carton
dans
apprécié, la presse.
Il n'a pas apprécié.
Il n'a apprécié du tout. Hein. Mais les deux, en fait, Codorniou comme Courteau, en ont profité, si je puis dire, en tout cas pour le dernier, en fait, Codorniou, pour entrer dans le chou, alors là, de M. Perea, le député de la République en Marche,
Narbonne. Du billard à trois bandes. Hein. La boule revient tout à
voilà.
fait dans l'autre sens.
Et donc, à la fin de cette polémique un peu stupide, en fait, et totalement inconsistante, des uns et des autres, qui associaient Mme Delga, M. Codorniou, M. Courteau, en fait, et M. Perea, pour savoir qui, en fait, avait voté, qui pas, en fait, etc. Bon. Quand même, j'ouvre une parenthèse, Mme Delga et M. Codorniou, étant quand même à la matière au-dessus du panier, parce que sortir dans la presse que la décision de l'État qui a voté un programme pluriannuel de l'énergie de 8 milliards d'euros pour sur une période de 5 ans hein, était un programme qui rayait de la carte. C'est pas moi qui le dis, c'est Mme Delga, quoi, hein, qui rayait de la carte. Hein. Les investissements faits par la région de 250 millions d'euros sur le port pour réaliser en fait, des éoliennes qui est en train de développer aujourd'hui le consortium dirigé par la société Cadran.
Dans ce qui est, rappelons-le, une expérience.
Comment, quand on est président d'une région, peut-on tenir ce genre de propos? Alors, je rappelle les faits, quoi. Les faits. Un. Il n'y a jamais eu d'engagement de l'État précédemment, tous les gouvernements précédents.
Ce que tu as déjà souligné,
aucun,
on peut le redire.
Aucun qui garantissait la réalisation de sites commerciaux d'exploitation des éoliennes flottantes de monsieur, fait du consortium de Cadran, en fait. Rien.
Voilà. Ça n'existe nulle part. Une expérience.
En fait, il s'agit purement et simplement d'une expérimentation, comme Cadran le fait avec Engie sur le cas de la Palme, comme deux autres consortiums le font enfin, du côté breton, chacun étant enfin, développant des technologies, en fait, en partenariat avec différents constructeurs, en fait, bon, etc., pour, à la fin des fins de l'expérimentation, faire la démonstration que leur projet sera efficace et rentable.
Ouais.
Premier point.
Ouais.
Deuxièmement, ce qui ne veut pas dire que ce sera, et on y vient en fait, second, que ce sera celui en fait, de Cadran, de projet par exemple, même si à la fin il est démontré qu'il est efficace en fait, et rentable, qui sera retenu par l'État pour gérer en fait, un site commercial en, fait, en Méditerranée.
Voilà.
Et ça n'a jamais... Donc, voilà. Donc, et rien ne garantit...
Il y a une confusion.
Bien sûr, parce que rien ne garantit du tout en fait, que lorsque l'État va lancer cet appel d'offres pour ce site commercial d'exploitation en Méditerranée, la société qui cadra sera retenue. En fait, J'ajoute enfin que... Et ce n'est pas parce que la société qui cadra ne sera pas retenue en fait, par l'État sur en fait, l'exploitation pour le projet que lancera l'État...
Que ça ne se fera pas.
Mais que Cadran décidera de mettre tout ça dans la poubelle, puis de rentrer chez lui. Rien ne l'empêchera d'aller vendre sa technologie ailleurs, en fait, etc. Ouais. Donc, tout ça relève en fait, de l'enfumage en fait, généralisé de la part de nos élus. Et il me semble qu'il aurait été beaucoup plus sain, beaucoup plus correct de dire les choses calmement, simplement, comme je tentais de le faire à l'instant.
Voilà. Et en espérant que le message sera cette fois-ci passé. On marque une deuxième pause à la suite de laquelle nous retrouvons notre invité, Louis Privat.